Vous écoutez
RMC. RMC. Le bras de fer GG.
C'est exceptionnel ce qu'elle est en train de réaliser, la Française Pauline Ferrand-Prévot, la championne olympique de VTT.
Incroyable.
S'envole.
Incroyable.
Elle va les récupérer, les deux femmes devant.
C'est aussi notre travail d'être dans la meilleure forme pour ce jour. Je me préparais juste pour la plus grande course de ma vie.
Les derniers coups de pédale, la voilà. Elle vient de passer la ligne d'arrivée, les bras en l'air et le sourire évidemment de Pauline Ferrand-Prévot qui s'adjuge l'étape reine aujourd'hui au col de la Madeleine.
En effet, elle m'a fait un petit peu peur. J'ai trouvé très très mince, très amaigrie, fatiguée.
Je sais pourquoi je l'ai fait et ça a été toutes les années comme ça. Déjà l'année dernière, j'avais fait comme ça pour les Jeux. J'avais fait, enfin c'est ma façon de faire et je sais que c'est pas pour toujours. Donc moi ça me choque pas.
Allez, la ligne d'arrivée est dans quelques mètres. Pauline Ferrand-Prévot vient de passer la ligne, les bras levés. Évidemment les émotions, mais c'est la reine. Elle est seule au monde, Pauline Ferrand-Prévot, sur ce Tour de France femme. Le maillot jaune sur les épaules, deux victoires d'étape et surtout la victoire de ce Tour de France.
Encore une fois, c'est aussi bien qu'il y ait des portes de parole et qu'il y ait des filles qui puissent permettre de tirer la sonnette d'alarme.
C'est un sujet important qu'on a déjà évoqué lors du Tour de France femmes, suite notamment à des déclarations coureuses comme Cédrine Carbajal. Mais il y a eu de nouvelles déclarations cette semaine. Celle de Marlène Reusser, la Suissesse, qui a déclaré en parlant de Pauline Ferrand-Prévot, on espérait secrètement qu'elle ne gagne pas. Elle a établi une nouvelle norme et lorsque des coureuses connaissent le succès, ça nous met la pression. La Française qui a en effet assumé, vous l'avez entendu, qu'elle avait perdu du poids pour performer sur les routes du Tour, tout en précisant que tout était parfaitement encadré par un nutritionniste. Cependant, c'est un sujet qui concerne le cyclisme, pas seulement féminin d'ailleurs. Le syndicat des coureuses professionnelles a d'ailleurs regretté qu'on ne parle que du cyclisme féminin en oubliant les hommes. Mais ce syndicat souligne aussi le manque de soutien sur le suivi santé des athlètes féminines en comparaison à leur homologue masculin. On en parlera d'ailleurs dans un instant avec Marion Rémilly, médecin du sport qui est engagée dans un groupe de travail sur le sujet. Mais d'abord, la question qu'on vous pose, parce qu'elle peut se poser, elle s'est posée dans d'autres sports, notamment le saut à ski, on pourra y revenir. Faut-il imposer une limite de poids dans le cyclisme? Dans la team oui, Fred Weiss, dans la team non, Pascal Duprat et Sarah Pitkowski. Alors, évidemment, c'est un sujet très sérieux. On va essayer de l'aborder avec le plus de précision possible et avec notre invité dans un instant. D'abord, je voudrais avoir votre avis, sachant que vous connaissez la règle de ce bras de fer. C'est celui qui est en retard par rapport au sondage sur le compte X des Grandes Gueules du Sport qui doit débuter. Et c'est donc Fred Weiss qui est à 26% pour l'instant, contre 74% de non. Il ne faut pas imposer une limite de poids. Donc Fred, toi tu penses qu'il faut imposer peut-être une limite de poids. Alors quand on dit limite de poids, évidemment on ne parle pas
si
du poids brut. On ne dit pas à moins de 60 kilos, tu n'as pas le droit de faire le Tour de France. Ce n'est pas ça l'idée, évidemment.
Non, mais par rapport à la qualité d'un athlète et au poids d'un athlète en forme, essayer d'imposer une limite de poids. Peut-être pas de poids d'ailleurs, juste peut-être aussi un taux de gras, de graisse, une IMC, je ne sais pas. Mais c'est drôle, c'est celui qui a le plus de problèmes de poids qui en parle. Mais en fait moi je suis inquiet. Quand je vois Cédrine Carbajal parler de des filles qui n'ont plus leurs règles, des filles qui risquent d'avoir des problèmes osseux après, des filles qui peuvent être dans une extrême difficulté, qui peuvent se blesser très gravement, je me dis, si quelqu'un qui fait le Tour de France te dit ça, c'est qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème. Et si elle s'inquiète, je me dis qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude. Ne pas avoir ses règles pour une femme, ça peut être très dangereux pour la fertilité, évidemment, mais il y a plein de dangers aussi. On est des athlètes, oui, mais on est des hommes et des femmes surtout. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pour après. Et en admettons que les coureurs professionnels soient surveillés tous les jours, mesurés, etc., et qu'il y ait moins de risques. Ok, admettons-le. C'est quand même un exemple pour la jeunesse. En fait, les jeunes qui vont voir ça, les jeunes qui vont commencer le vélo vont se dire, pour faire performer, il va falloir que je fasse ce genre d'effort, il va falloir que je sois d'une extrême maigreur. Et ça aussi, ça me fait peur. Parce que l'image qu'on a du Tour de France, c'est des athlètes extrêmement maigres. Donc, est-ce que c'est un bon signal qu'on envoie pour les jeunes qui sont moins surveillés, moins contrôlés? Je suis pas sûr. Donc,
ça, c'est le sport. C'est ça. Le signal que tu envoies, c'est le sport de haut niveau, non?
Tu peux pas mettre des normes. Tu peux pas mettre des normes partout. Donc, dans ces cas-là, celle qui fait 1m60, elle va faire du vélo. Et celle qui va faire 1m80, elle peut pas faire de vélo. Parce qu'en fait.
Mais non, parce qu'il n'y a pas un poids maximum minimum. C'est par rapport à l'athlète en soi.
Mais oui, mais c'est les responsabilités individuelles. Mais la responsabilité individuelle n'empêche
imposer,
pas...
Imposer, hein.
Oui, mais n'empêche
Sarah,
pas la...
Quand tu vois...
N'empêche pas la prévention.
Pauline Ferrand-Prévot est un exemple maintenant. C'est-à-dire que la plupart maintenant vont faire des efforts, vont encore perdre du poids.
Non, mais elle a très bien expliqué. Non, mais... Elle n'a pas dit qu'elle elle était maigre comme ça tout le temps.
Oui,
elle sait fixer un objectif qui fait que pour gagner en watts, elle a perdu en masse grasse.
Je ne parle pas d'elle, en fait. Je parle de l'exemple qu'elle donne aux autres qui vont devoir être une extrême maigreur pour essayer de performer la même chose.
Mais on ne fait pas du sport de haut niveau pour incarner un exemple pour toute une jeunesse.
Si, un peu, quand même.
C'est
le rôle des sportifs de haut niveau. Moi, en tant que sportif de haut niveau, quand j'étais sportif, je voulais être un exemple.
Même si tu ne le fais pas pour ça, tu as un impact quand même, forcément.
Mais tu as un impact, oui, mais on ne va pas te mettre des règles parce que la jeunesse doit avoir un message qui doit être...
Pour éviter qu'il y ait des dérives, pourquoi pas.
Bah non, mais dans ces cas-là, c'est plus du sport de haut niveau.
Mais bien sûr que si, mais ça reste du sport de haut niveau.
Tu sais,
à mon avis, leur masse grasse, elle est très très basse, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc il n'y a pas de grande différence. C'est juste ne pas descendre sous un seuil parce que ça devient risqué pour ta santé après, pour ton physique.
Mais en fait, les métabolismes, ils sont différents pour chacun. Donc même si tu mets un IMC
un IMC, un taux de masse grasse.
Mais oui, mais c'est ça. Un taux de masse grasse, c'est ça. Le problème, c'est que les métabolismes des uns et des autres sont complètement différents. Donc en fait, si tu commences à encadrer ce genre de choses, c'est-à-dire que tu vas avoir des dérogations pour tout, parce que le métabolisme des uns et des autres, ta masse osseuse, elle est différente. Donc en fait,
mais c'est pour ça que la masse grasse est très intéressante. L'IMC est beaucoup moins intéressante parce que l'indice de masse corporelle n'est pas la même chose que le taux de masse grasse.
Tu peux pas mettre un chiffre qui descend du ciel en disant on estime que pour faire du vélo,
il doit descendre du ciel.
Il doit s'adapter à tout le monde. Mais tu dois quand même mettre une limite, c'est ce que veut dire. Alors, je vais donner la parole à Pascal, mais juste avant Pascal de te donner la parole, puisque je l'ai évoqué quand même, pourquoi on pose cette question? C'est parce que d'autres sports l'ont fait, et notamment en saut à ski, autrefois confronté à des problèmes d'anorexie, vraiment par des sauteurs à ski qui veulent être plus légers, hein, pour aller le plus loin possible.
Je serais pas un bon sauteur à ski.
Je suis pas sûr. Donc il y a certains qui sont tombés dans la dépression. Non mais juste, je termine pour dire que les responsables de la discipline, ils ont changé le règlement pour fixer un seuil d'IMC, donc d'indice de masse corporelle, en dessous de ce seuil de 20. Voilà le seuil qui a été fixé pour les sauteurs à ski. Le sauteur est pénalisé. Ça veut pas dire qu'il peut pas participer, mais il est pénalisé. Il est obligé de prendre des skis plus courts que la longueur maximale autorisée, ce qui évidemment l'empêche d'aller plus loin. Et donc voilà, c'est une réglementation qui a été faite pour protéger les sportifs.
Mais en fait, l'exemple que tu cites, il est très bon, mais cela dit, c'est pas un sport d'endurance de saut à ski. Ok? Et donc, si t'es mieux, il peut y avoir des dérives quant au saut à ski, parce que si t'es mieux, la performance athlétique, elle est dans la souplesse, dans l'orientation, l'angle que tu vas mettre à tes skis, l'envol que tu vas prendre sur le saut d'élan, mais tandis que le vélo, c'est un sport sur tapis d'endurance. Or, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on fait d'une volonté de Pauline Ferrand-Prévot, à savoir perdre 4 kilos pour être, on va dire, plus à l'aise dans les montées, sans déperdition de sa puissance. On fait donc de cette volonté, pendant un laps de temps très court, le temps du Tour de France, même si elle s'est amaigrie en quelques temps, sous contrôle médical, parce qu'elle l'explique bien, elle est bien sûr sous contrôle médical, avec l'appui de son diététicien ou diététicien de l'équipe. Je vois pas pourquoi on fait de ce cas particulier un cas...
Est sorti, non, fait les sorties mais, avant mais ça, quel,
mais que sa collègue, non mais moi j'ai aussi beaucoup lu sur ce que disent les cyclistes. Certaines sont pas prêtes à perdre du poids pour augmenter leur performance, ça les regarde, mais en tout cas PFP, elle a pas mis sa santé en danger. Il y a personne qui lui a imposé la règle.
Donc pourquoi l'exemple, c'est juste que l'effet loop du Tour de France montre que
l'effet loop,
qui a un BTS en nutrition quand même,
Fred, n'importe quel jeune qui veut s'adonner au sport, il doit comprendre à un moment donné que pour aller au meilleur niveau, il faut faire moult sacrifices. Et parmi ces sacrifices, notamment pour le vélo, mais bien d'autres sports, le nôtre, le football également, le poids est ton ennemi. La surcharge pondérale est ton ennemi.
Donc
si PFP, elle est à 7 de masse graisseuse, ou peut-être moins, j'en sais rien, et si elle supporte ceci parce que son alimentation est sa supplémentation naturelle tout au long de l'effort et de la course, ben je vois pas qu'est-ce qu'on a alors, à redire. Je suis désolé, je vois pas qu'est-ce qu'on a à redire ben, pour
mais,
ça.
Bon, ben, quand il y a Cédrine Kerbaol qui a... s'exprime et qui dit qu'elle commence à avoir de vrais dangers, elle qui est à la fois coureur cycliste et à la fois
nutritionniste,
elle a un BTS en nutrition,
ouais.
Et ben je suis isolé, moi ça.
Alors, mais elle connaît le cas de PFP.
Mais on parle
elle l'a étudié.
On parle en général.
Non, mais elle voit les autres coureurs dans le peloton.
En fait,
elle voit.
Elle loupe le voilà. Tour de France. Mais c'est toute l'année en fait.
Alors justement, on va accueillir Marion Rémilly qui travaille sur ce sujet toute l'année depuis plusieurs années. Bonjour Marion.
Bonjour à tous. Bonjour.
Merci beaucoup. Vous avez écouté tout le débat. Vous êtes médecin des équipes de France de cyclisme et vous faites partie d'un groupe de travail mis en place par la Fédération française de cyclisme. Pour parler de ces sujets-là, de la nutrition, du syndrome Redes dont on va parler également, c'est pas depuis le Tour de France et depuis les sorties de cet été, bien évidemment, que la Fédération française travaille sur ce sujet.
Hein. Non, effectivement, en fait, l'essor du cyclisme féminin, ça fait quelques années que ça prend de l'ampleur. Là, le Tour de France a vraiment pris de l'ampleur cette année, mais le Tour de France, il faut bien se rappeler que c'est la quatrième édition, donc ça fait quatre ans que les cyclistes professionnels essaient de donner le meilleur d'elles-mêmes, notamment au niveau du Tour de France. Mais donc l'essor du cyclisme féminin, ça fait quelques années, et donc ça fait quelques années déjà qu'on est confronté à ces problématiques.
Et justement, ce groupe de travail, est-ce que, puisqu'on posait cette question, il y a peut-être des conclusions qui vont venir pour se dire il faut imposer une limite de poids dans le vélo. Est-ce que ça pourrait être utile, selon vous ?
Alors le groupe de travail, effectivement, il a été lancé par le directeur médical fédéral Éric Ménadier, qui travaille à la Fédération depuis plusieurs années. Et il s'est posé en fait la question, il s'est tourné vers cette question depuis le début de l'année, là, 2025, et en proposant différents groupes de travail pour essayer d'avoir des réponses peut-être plus spécifiques et plus individuelles que justement un dépistage de masse. Et nous, la volonté, c'est vraiment pas de mettre des limitations, de faire des suivis réglementés, parce qu'en fait, tout ce qui est obligatoire est mal vécu, et comme vous disiez juste avant, en fait, c'est un problème plutôt individuel. Donc le but, nous, ça va être vraiment de faire de la communication, notamment envers les plus jeunes, et donc donner aussi des supports à tous les staffs, que ce soit les staffs médicaux, les staffs techniques, les encadrants, les éducateurs, vraiment leur donner de l'éducation par rapport à tout ça, pour pouvoir alerter plus rapidement si on est confronté à une coéquipière ou on a une suspicion, des choses comme ça. C'est donc de pouvoir alerter au plus vite et surtout pouvoir orienté vers les bonnes personnes, orienté vers le spécialiste de la région où la jeune coureuse, par exemple, va être licenciée, le spécialiste qui va se tourner vers ces questions et directement rencontrer un médecin du sport ou un psychiatre s'il y a besoin, voilà, d'avoir les bons acteurs en face de la problématique.
Marion Rémilly, médecin des équipes de France de cyclisme, qui travaille donc sur ces questions, notamment du poids, de la nutrition dans le cyclisme. Sarah Pitkowski.
Alors, moi, je voulais vous poser une question, Marion, parce qu'avec ces derniers articles, voire polémiques qui sont sorties, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, qui est ce fameux ouais. syndrome Redes qui désigne ce déficit énergétique entre la dépense et l'entrée d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vrai que ces derniers temps dans le sport, on a aussi révélé ces troubles mentaux ou en tout cas les moments de dépression, de burn-out. Ce syndrome RS est quelque chose qui est assez fréquent. Est-ce qu'il est encadré? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors oui, le Redes syndrome, c'est vraiment quelque chose qui est sorti ces dernières années et il y avait vraiment un besoin d'encadrer ce trouble. Il reprend beaucoup de choses, notamment effectivement le déficit énergétique qu'on peut avoir entre l'entraînement, la charge d'entraînement qu'on va faire et le peu d'alimentation qu'on va avoir en face. Mais aussi, il reprend des choses plus globales comme les troubles hormonaux, les signes psychiatriques ou psychologiques avec les dépressions, l'anxiété, une fatigue généralisée, un manque d'envie. Donc ça encadre beaucoup de choses et peut-être quelqu'un qui a juste une problématique de poids va se dire bah, j'ai pas trop de problèmes à part mon poids, et en fait d'autres personnes qui vont avoir plus de problématiques, on va dire, qui n'arrivent plus à aller en s'entraîner, qui n'ont plus d'envie, qui ont des problèmes d'alimentation, en fait ça va complètement encadrer tous ces symptômes-là, et donc ça va peut-être encadrer plus de sportifs. Et alors ça prend un peu la suite de la triade de l'athlète féminine dont on avait connaissance ces dernières années, mais du coup la première problématique, ça prenait pas en compte les hommes, alors que le Redes syndrome, le Redes prend en compte aussi les athlètes masculins. On a des échelles maintenant, on est capable capable d'évaluer spécifiquement les athlètes. Si on a un doute, on a des échelles qui viennent notamment de l'UCI et qui encadrent les choses. On peut diagnostiquer quelqu'un et le classer dans différents grades, on va dire, quelqu'un qui a pas du tout de signe de raidesse, quelqu'un qui va avoir quelques signes et quelqu'un qui est sévère. Et là, sur l'athlète qui va être sévère, on va avoir un traitement un peu spécifique et à mettre rapidement en place en phase. Donc on a maintenant des outils pour pouvoir évaluer les sportifs à risque.
Fred Weiss.
Oui, docteur, j'ai une question. Quand vous écoutez Cédrine Carbajal, je suis désolé, j'ai pris souvent en exemple, mais c'est vrai qu'elle a été
beaucoup
exprimée
dessus. C'est elle qui est la première à s'exprimer.
Elle parle du problème de fertilité, du problème de la faiblesse des os qui se fragilisent, des risques de blessures énormes. Est-ce que ça vous inquiète pas, justement, cette extrême maigreur?
Ah bah complètement. Après, il faut aussi recadrer les choses, se dire que ça représente un pourcentage de cyclistes féminines. Et là, le Tour de France met plutôt en exergue les grimpeuses. Il faut se dire quand même que sur une année de cyclisme, on commence par les classiques en mars-avril, où là, les cyclistes qui vont être les plus fortes sur ces classiques en général, sont des profils un peu plus en puissance, un peu plus en force, et ont moins ces problématiques. Mais c'est vrai que le Tour de France, c'est vraiment le reflet, on va dire, du cyclisme en général, que ce soit chez les féminines ou les masculins. Donc on parle beaucoup, beaucoup de poids. Et effectivement, il faut quand même se dire que ça ne représente pas la plupart des cyclistes féminines. Il y a même des athlètes féminines qui ont eu, qui ont mis entre parenthèses leur carrière parce qu'elles ont eu des enfants. Il y a Wout Bianic là, qui est revenu sur le Tour de France cette année. Donc ouais, il y a des cyclistes qui courent sur le circuit mondial, qui arrivent à faire des pauses et ont des enfants. Donc voilà, il faut aussi rassurer par rapport à ça. Mais effectivement, le pourcentage d'athlètes qui vont avoir des problématiques de poids, elles mettent effectivement en danger à certains niveaux leur santé. Et le but, c'est vraiment de pouvoir les encadrer. Et au-delà de ça, le but, c'est que ça n'arrive plus, en fait. C'est pour ça qu'on veut avoir un rôle plus d'éducation chez les jeunes générations, pour qu'elles aient mieux connaissance de leur corps, de leurs besoins énergétiques, tout peut être fait, mais ça doit être encadré par des professionnels pour ne plus justement arriver à des problématiques surtout d'arrêt de carrière, en fait. Parce que les filles qui arrivent au Tour de France avec une gestion de poids, c'est qu'elles ont quand même bien réussi leur carrière, parce qu'elles sont arrivées sur le Tour de France. Mais on a beaucoup de jeunes filles qui vont arrêter complètement le cyclisme alors qu'elles étaient en plein essor pour des problématiques de poids, des troubles d'anorexie. Et malheureusement, ces jeunes filles-là, on n'en peut pas parler et elles ont arrêté.
Ce sujet, il est aussi bien féminin que masculin, on est bien d'accord. Parce que là, il y a eu un effet loupe sur le Tour de France féminin.
Il y a des féminins, quand même, parce qu'il y a ces problèmes de fertilité.
Oui, mais la fertilité, tu l'as aussi. Oui, de règles. Mais les troubles hormonaux, tu les as aussi chez les hommes aussi.
Mais ce que regrette d'ailleurs le syndicat des coureuses, c'est qu'on dise, les coureuses sont maigres, et puis à côté de ça, on a des coureurs très maigres, ils sont affûtés. Voilà, et c'est ça le discours que l'on tient.
On n'utilise pas le même terme. Moi, je me souviens, mes premières fois, quand j'étais sur le Tour de France et que j'étais aux arrivées, c'était dans les années 2010.
Ah, t'as fait le Tour de France?
Non, j'étais aux arrivées.
Ça m'a échappé.
Je n'avais pas dit que j'étais sur le vélo. Je me souviens des frères Schleck et d'Andy Schleck. Ouais, ouais. Quand je l'ai vu descendre sur le vélo et que j'ai vu des hanches qui faisaient la moitié de la mienne, alors qu'il mesure plus d'un 85, j'ai été frappée. Mais après, quand j'ai vu les autres coureurs, j'ai vu effectivement que ces gabarits étaient très particuliers. Mais tu as raison,
morphotype du cycliste.
C'est le morphotype, mais regarde, aujourd'hui, on n'utilise pas les mêmes termes. On va dire qu'un paré-peintre, il est super affûté, et on va dire d'une Pauline Ferrand-Prévot qu'elle a mis des épingles à nourrice sur son maillot parce qu'en fait, il était trop large au niveau des bras, tellement elle avait perdu.
Il faut peut-être changer ce discours, effectivement.
Exactement. Ouais.
Voilà. Marion, c'est pas que féminin.
Non, et dans le cyclisme masculin, c'est quand même d'avoir des cyclistes affûtés, c'est le terme effectivement qu'on emploie. On a l'habitude depuis des années de voir à la télé des cyclistes affûtés. Alors c'est vrai que souvent c'est plus marquant quand on les voit directement de visu. L'athlète féminine, la femme de base a une masse grasse plus élevée, donc
exactement,
de voir un muscle affûté, ça on n'a pas l'habitude de voir, même chez les femmes les plus sportives. Il y en a quelques-unes qui vont avoir, qu'on peut utiliser le terme affûté, mais la plupart des sportives, on voit pas forcément le muscle saillant, les veines sortir. Alors là, du coup, c'est la première fois où on a vu, on a remarqué au niveau de Pauline Ferrand-Prévot qu'elle était affûtée, qu'on voyait le muscle saillant, on voyait ses veines sortir. Donc je pense que c'est ça qui est marquant aussi, c'est qu'on n'a pas l'habitude forcément chez les athlètes féminines, et c'est normal, parce que le taux de masse grasse est plus élevé chez les femmes. Donc voilà, une femme sportive, on n'est pas censé forcément voir son muscle saillant comme chez les hommes, alors que chez les hommes, on a l'habitude de voir ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cet effet un peu marquant sur cette édition.
Merci beaucoup Marion Rémy d'être passé. Je rappelle, médecin merci des équipes Marion. De France de cyclisme. Merci beaucoup pour
Marion. Elle parle pas que de tennis. Hein.
Bah, merci Marion. Non, c'est pas la même. Merci beaucoup d'être passé dans les grandes gueules du sport ce matin pour nous éclairer sur ce sujet, évidemment, dont on reparlera. Il y a d'autres infos sur ce sujet à retrouver sur rmcsport.fr.